Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 4 juin dernier, à l'occasion d'une remise de prix, le pape François a rappelé trois points d'attention aux journalistes, l'attention aux périphéries, à la vérité et à l'espérance. Sage ambition mais vaste programme, pourrait-on dire, que nous allons essayer de relever ce matin à l'occasion de notre émission mensuelle d'actualité. Au programme de ce jour, la fin de l'accord sur le nucléaire iranien, les élections en Italie, le plan Borloo sur les banlieues et Parcoursup. Pour cette émission Vivante Église ce matin, donc l'un des grands rendez-vous, si ce n'est pas le grand rendez-vous de Vivante Église, donc le grand débat autour du plateau, Bernard Ribal, habitué maintenant de cette émission, président des Semaines Sociales de Toulouse et conseiller spécial du président de la CFTC. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Emmanuel Perrier, donc dans l'ordre autour du plateau, prêtre dominicain et enseignant en théologie. Bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Cyr, voilà, nouveau venu dans cette émission, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole. Bonjour.
Bonjour.
Bruno Cyr qui donc fait sa première et qui, voilà, cuisine interne de cette émission, sera peut-être le remplaçant, une fois sur deux, de Daniel Cabanis, mieux connu de nos auditeurs, qui est la chroniqueuse géopolitique de cette radio. Alors, dans l'ordre, on s'est dit qu'on allait commencer par parler de l'Iran. Alors, j'ai fait une petite erreur déjà dans mon introduction, en disant que c'est la fin de l'accord sur le nucléaire iranien. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est un lapsus. Mardi 8 mai, Donald Trump a retiré les États-Unis de cet accord, faisant marche arrière. Accord donc qui avait été signé, pour mémoire, en 2015, écrit qui prévoyait, alors je fais bref, hein, la suppression d'un certain nombre de réserves d'uranium de ce pays pour éviter son enrichissement, en tout cas un enrichissement limité afin de ne pas avoir une utilisation en vue de la détention d'une arme nucléaire, la destruction des deux tiers des centrifugeuses et des inspections très strictes. À l'annonce donc du retrait des États-Unis de cet accord appelé JCPOA, dans le jargon, le monde s'est ému, disant que c'était un facteur supplémentaire de déstabilisation au Moyen-Orient. Voilà pour cette courte introduction. Bruno Cyr, puisque c'est à vous qu'est choix d'abord le commentaire de ces sujets internationaux, quel commentaire ça vous inspire ?
Ben, c'est une grande inquiétude, je trouve. Effectivement, cet accord avait fait l'objet de négociations très longues, très difficiles. Je crois que c'est un accord, pour ce qu'on peut en juger, vu d'ici, on n'est pas forcément au courant de tout, mais c'est un accord qui avait pour ambition d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'en renonçant à cet accord ou en le dénonçant, il me semble que le risque que prend Trump, bien sûr, mais plus encore Israël et Netanyahou en particulier, c'est que demain l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire, c'est-à-dire une prolifération d'armes nucléaires. Et là, on peut craindre le pire, parce que je ne suis pas sûr que d'un côté Israël, de l'autre l'Arabie Saoudite, voit d'un bon œil une montée en puissance nucléaire de l'Iran, et donc ça ne fait qu'aviver les tensions. Donc moi je suis effectivement très très inquiet par cette rupture.
Benjamin Netanyahou, qui était ces derniers jours de passage, entre autres en France, après l'Allemagne, pour essayer de rallier, on va dire, comme une coalition derrière lui pour une grande fermeté à l'égard de l'Iran, s'inquiétant entre autres de bases iraniennes assez multiples en Syrie et même peut-être la présence de missiles de longue portée. Voilà, pas mal de choses à dire sur ce sujet. Je vous laisse peut-être réagir chacun. Emmanuel Perrier, même inquiétude, j'imagine, sur la fin de cet accord. Quelle est votre première réaction ?
Alors je ne suis pas aussi au fait de l'actualité, mais c'est plutôt une réflexion de plus haut qui me vient. C'est que l'arme nucléaire, c'est une arme qui est intrinsèquement porteuse de politique, parce que en raison de son potentiel de destruction, elle sort des armes conventionnelles, on ne peut pas l'utiliser sur des terrains de guerre habituels, et donc elle entre dans le champ de la dissuasion, c'est-à-dire du rapport entre des États, du rapport de force. Si tu me tues, je te tue, hein, donc nous perdons tous les deux, donc nous ne ferons rien. Donc c'est une arme qui suppose des États qui ont une certaine stabilité, une certaine rationalité, une certaine manière de fonctionner qui les rend prévisibles. Et puis, troisièmement, c'est une arme dont on sait aussi que plus elle prolifère, plus on multiplie les dangers que ça dérape. Or, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a dans la déstabilisation actuelle du Moyen-Orient une déstabilisation de nations qui justement étaient des interlocuteurs sur lesquels on pouvait faire pression, sur lesquels on... par exemple, cet accord, la conclusion de cet accord, et que le processus de déstabilisation systématique de tous les régimes moyen-orientaux, sauf ceux qui sont achetables, conduit à rendre l'arme nucléaire à la fois désirable, parce que si on veut subsister dans un monde qu'on est en train de déstabiliser, on a envie de se protéger en développant l'arme nucléaire. Donc on pousse, plus on introduit de la déstabilisation stratégique, plus on pousse des nations qui sont fragiles ou qui ont crainte d'être déstabilisées à s'armer nucléairement. Et deuxièmement, la manière dont aujourd'hui ça se produit, cette déstabilisation du Moyen-Orient, c'est-à-dire systématiquement en passant outre le droit international, en passant outre les instances qui permettent à des nations de parler entre elles et de se respecter, conduit encore plus à cette crainte, alimente, voyez la Corée du Nord, et alimente de plus en plus la crainte d'être déstabilisée. Et juste pour finir, je crois qu'il y a dans la manière de faire de Donald Trump une manière qui justement échappe au droit, qui échappe à cette obligation d'un rapport d'égalité dans lequel on cherche une solution ensemble. Et deuxièmement, je pense qu'il y a aussi dans le choix, la manière pour les Occidentaux d'intervenir au Moyen-Orient, c'est-à-dire sans mandat, c'est-à-dire par des frappes sur des rumeurs, par un certain nombre d'actions cachées.
Frappes sur des rumeurs, vous faites allusion donc aux attaques chimiques supposées du régime de Bachar
al-Assad, et pour lequel on va bombarder sans mandat de l'ONU et sans objectif de guerre. Tout cela ne fait que sortir ces situations qui devraient être réglées au niveau politique, dans un droit international, et les faire entrer dans l'épreuve de force, dans lesquelles on sait très bien que l'arme nucléaire, on va pousser à l'arme nucléaire, et en même temps, on va favoriser tout ce qu'il faut pour que l'arme nucléaire devienne dangereuse.
Alors, à ce sujet, donc, de fait, l'Agence internationale de l'énergie atomique a, comment dire, infirmé quelque part la décision de Donald Trump, disant qu'il n'y avait pas, en fait, de... parce que
son
Donald Trump...
a démissionné.
Voilà, Donald Trump, ah oui, enfin, je vous laisserai commenter, a prétexté donc, que le programme nucléaire n'était pas respecté. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il a dit. Je voudrais peut-être vous relancer juste par une chronique que j'ai vue d'Éric Zemmour. Alors, vous me direz, c'est peut-être mettre de l'huile sur le feu que de le citer, mais j'ai trouvé qu'elle était intéressante parce qu'il faisait le parallèle dans une chronique sur RTL entre la situation actuelle au Moyen-Orient et la guerre de 14-18, disant qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu pour pédagogie peut-être, il y avait deux grandes alliances qui commençaient à s'affronter, qui s'affrontaient sur place, donc l'Iran, la Russie, avec le Hezbollah sur place, et les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite, et qu'on était à tout moment, on avait l'impression que les choses pouvaient ne faire qu'empirer, parce que les choses ont déjà explosé. Bernard Ribal.
Ouais, alors moi je ne sais pas si c'est 14-18 là, je pense plutôt à l'affaire avec la Corée du Nord. Et c'est pour ça que je ne pense pas que l'hypothèse de Trump ce soit qu'il n'y ait plus d'accord sur nucléaire avec l'Iran, mais qu'il y ait un accord beaucoup plus sévère. Contraindre l'Iran à avoir à subir un contrôle beaucoup plus sévère d'interdiction de l'armement nucléaire.
Voilà, parce qu'on dit que Donald Trump a eu cette attitude ferme à l'égard de la Corée du Nord pour pousser la Corée du Nord à la dénucléarisation.
On a tous critiqué, moi le premier, Trump en disant « mais qu'est-ce que c'est, il joue au cow-boy ». Alors, on n'enlève rien, il joue au cow-boy. Mais en attendant, pour l'instant, pour la Corée du Nord, il a gagné. La Corée du Nord fait machine arrière.
Ça reste à confirmer quand même.
Elle a déjà fait machine arrière avec la Corée du Sud. Mais bon, tout reste à confirmer. Hein. L'histoire n'est jamais figée. Mais je crois que l'enjeu principal, il n'est pas celui-là.
Je crois que l'enjeu principal dans cette affaire iranienne, c'est que les USA, comme l'Europe, hein, j'insiste, comme l'Europe, France, Allemagne, Grande-Bretagne, tous les deux, États-Unis et Europe, sont très méfiants, sont en désaccord total avec l'Iran sur l'affaire des missiles, et donc pas simplement l'affaire de l'uranium et de la bombe atomique, et sur la présence iranienne en Syrie.
Alors l'affaire des missiles, excusez-moi, j'apporte les précisions au fur et à mesure, parce que tout le monde n'est pas spécialiste comme vous, c'est qu'il a été dit que n'étaient pas compris dans l'accord les missiles balistiques, et voilà. Que donc cet accord pouvait laisser courir pendant 10 ans, enfin permettre à l'Iran de préparer des missiles balistiques voilà. De longue portée, voilà. Peut-être pas aussi dangereuses que l'arme nucléaire, mais pas loin en tout cas.
Et alors, que ce soit Macron ou les autres Européens, ils sont très méfiants hein, vis-à-vis de ces missiles d'une part, et de la présence militaire de l'Iran en Syrie. Face à Israël, je vous rappelle que l'Iran a encore déclaré il y a quelques jours qu'elle entendait détruire Israël. Non seulement elle ne reconnaît pas Israël, mais l'Iran veut détruire Israël. Donc l'hésitation même européenne à aller à l'encontre de Trump, elle tient aussi à ça, quoi, hein, parce qu'il y a au moins un point commun entre les États-Unis et l'Europe, c'est celui-là. Mais nous, les Européens, on ne veut pas... On trouve que c'était un pas déjà, c'était peut-être pas sensationnel, l'accord qui avait eu lieu, mais c'était mieux que rien, et qu'on va un peu vers l'inconnu. Le grand perdant, pour l'instant, c'est l'Europe. Hein. Le grand perdant, c'est le fait que les États-Unis aient le culot de nous interdire tout commerce avec l'Iran.
Parce que les suites, c'est qu'entre autres, PSA va se retirer alors qu'ils vendent 400 000 voitures sur place.
Oui, mais alors c'est d'autant plus bizarre que l'Europe avait déclaré haut et fort qu'elle n'entendait pas obéir avec le petit doigt sur la couture du pantalon aux États-Unis. Et au moment où la personne, c'est une femme, je trouve plus son nom, qui est chargée de la politique étrangère européenne, déclare ça. Le PSA et Total déclarent le même jour que finalement ils s'en vont, quoi.
Alors j'aimerais juste qu'on parle d'un autre sujet qui est peut-être pas bien connu des auditeurs. J'ai relevé ça aussi en préparant l'émission. Vous en aviez parlé, je crois, Bernard Ribal à l'occasion d'une autre émission. C'est en effet la position de l'Iran à l'égard d'Israël. Alors, peut-être ça va faire pendant à Éric Zemmour, mais j'ai vu que Bernard-Henri Lévy avait sorti un livre récemment, ouais, L'Empire et les Cinq Rois, ouais. Aux éditions Grasset, et il dit la chose suivante, il rappelle que le mot Iran signifierait donc Arien, qu'on utilise Iran à la place de la Perse, et que l'Iran continue à utiliser ce terme. Vous avez cité ces déclarations hein, en 2009, des dirigeants iraniens parlent de tumeurs cancéreuses à propos de l'État d'Israël, et Bernard-Henri Lévy dit que c'est le dernier État à ne pas s'être dénazifié, et il fait même en disant que c'est un régime particulièrement dangereux et on ne le sait pas assez. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction, Bruno Cyr?
Moi je suis très réservé à l'égard de monsieur Bernard-Henri Lévy. Parce que ce monsieur est un va-t-en-guerre. Et il a toujours des théories qui disent « il faut taper, il faut détruire sur tout ce qu'il désigne comme étant les méchants ». Il a poussé Nicolas Sarkozy à intervenir en Libye, on voit le résultat. Il a poussé à intervenir en Afghanistan, en Irak, il était pour la guerre d'Irak, etc. Ce monsieur est un va-t-en-guerre. Je le trouve extrêmement dangereux. Et là encore, il nous désigne les méchants en nous disant « il faut taper sur l'Iran ». Non, je crois que là, il faut arrêter ce genre de choses.
C'est-à-dire que ce qu'il dit est faux.
Ah bah moi je partage pas du tout cette analyse. Il a une analyse, je dis pas que son analyse n'a aucun sens, mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui, avec le sentiment que c'est un peuple nazi qui a une volonté de domination, etc. L'Iran, on le sait, est un peuple qui a un courant, qui est porté par un courant qui est le courant chiite, qui n'est pas un courant dominant dans l'islam, et l'Iran joue ses cartes, bon, comme d'autres pays, que, ni plus ni moins. Et je ne pense pas qu'il faille désigner comme ça la vindicte, les méchants c'est un tel et les gentils c'est les autres. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça la situation et qu'il faut avancer avec beaucoup de prudence avant de se dire qu'on va aller taper à droite ou à gauche. On a vu encore une fois le résultat contre-productif en Libye et aussi en Irak. Donc arrêtons de désigner en permanence les méchants et de pousser les pays occidentaux comme il le fait. Heureusement, il n'est plus tellement écouté, heureusement, mais je trouve qu'à une époque, il l'a beaucoup trop été, ou avec quelques autres. Donc je reviens sur ce que vous disiez. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de dire que c'est les grands perdants, c'est l'Europe. Je crois qu'au bout du compte, les deux perdants dans cette histoire, c'est le tandem USA-Israël. Parce qu'ils sont en train, ils avaient un allié, les Européens, et ils sont en train, finalement, parce que Trump a une politique vis-à-vis de l'Europe qui est absolument incompréhensible. Nous sommes les alliés naturels des États-Unis. Il est en train de vouloir nous punir économiquement avec des barrières douanières, avec un certain nombre de rétorsions si on intervient en Iran, etc. Quel va être le réflexe de l'Europe ? Ça va être de se tourner vers les Russes, qui ont une position sans doute beaucoup plus sage.
C'est déjà la position de l'Italie, d'ailleurs.
Ben oui, et ça va être la position du reste de l'Europe. Alors, peut-être pas le nord de l'Europe, parce qu'ils sont assez méfiants, mais... Et finalement, une alliance Russie-Europe, je ne suis pas sûr que ça soit bénéfique pour Israël et les États-Unis. Donc, je pense que c'est un peu plus compliqué de mon point de vue.
On va faire une première pause et puis on vous retrouve après pour parler justement des élections italiennes le 4 mars dernier qui ont fini par accoucher la constitution d'un gouvernement non sans grande difficulté. On en a parlé dans toute l'Europe évidemment, coalition désignée à la fois anti-système et dite d'extrême droite. Voilà, un coup de tonnerre supplémentaire dans le paysage européen. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire.
Présence. Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est donc, pour rappel, l'émission Vivante Église de ce jour, émission d'actualité avec autour du plateau, si par hasard vous nous prenez en cours de route, Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse, entre autres, Bruno Cyr, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole, et Emmanuel Perrier, prêtre et dominicain et enseignant en théologie. Alors, je l'avais promis avant la pause, maintenant on va parler des élections en Italie. Donc comme à chaque fois j'essaye de résumer, alors vous me direz c'est un peu, enfin là c'est, en l'occurrence c'est un sacré défi parce que ça a été long et compliqué. Le 4 mars dernier il y a eu des élections en Italie qui ont participation 72%, qui ont donné la victoire d'une coalition de centre-droit, donc du mouvement 5 étoiles, appelée centre-droit parce qu'on la présente souvent comme une coalition ni gauche ni droite, dite anti-système. Donc c'est à peu près, j'en trouve pas, 32% des voix, et Matteo Salvini, la Ligue du Nord, parti présenté donc comme étant un parti d'extrême droite. Alors, il y a eu de nombreuses tractations pour la constitution d'un gouvernement et, peut-être pour faire court, un coup de tonnerre, c'est qu'a été proposé un ministre européen, largement anti-européen pour le coup.
Ministre de l'économie.
Oui. Ministre de l'économie, donc, qui est une femme. Vous allez m'aider, Bernard Ribal, parce que là, je m'y perds. Paola Salvano, qui est réputée donc pour être assez tranchante. On citera peut-être, qui dit à propos de l'euro que c'est une cage allemande. Et elle a même fait des déclarations encore plus virulentes. Le président de la République, Sergio Mattarella, a mis son veto à la constitution donc, d'un premier gouvernement et à la nomination de cette femme. Et puis a été choisi un autre homme, plus acceptable pour les dirigeants européens, un certain Giuseppe Tria, et tout le monde a fini par se mettre d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ça a été pris donc comme un coup de tonnerre dans l'Europe, grande vague en fait, législative, grande vague élective donc en Italie, présenté ici comme populiste. Alors, ça sera peut-être ma première question. Est-ce que pour vous, c'est pas un qualificatif un peu court de les présenter uniquement comme populistes? Qu'est-ce que vous diriez pour vous lancer, Emmanuel Perrier?
Je dirais que le populisme, c'est un qualificatif qui est un qualificatif d'opposition à. Plus on a des technocrates qui imposent leur politique, plus on aura des populistes, plus on aura des populistes, plus on aura des technocrates. Or, dans l'un et l'autre cas, on n'a pas des politiques. C'est-à-dire qu'on sort du souci du bien commun. On est face d'un côté à simplement des revendications ou un malaise dans une société, dans une population qui se cristallise autour de revendications, d'exaspération. Et donc c'est un vote simplement de défiance, c'est un vote qui ne dit rien, c'est un vote qui simplement fait part d'un désarroi.
Et ils ont quand même des programmes les uns les autres. Enfin, on dit que le mouvement 5 étoiles n'avait pas un programme très détaillé, mais c'est...
Non seulement, vu la composition du mouvement 5 étoiles, c'est peut-être autant la Ligue du Nord, je pense que ça fait, je ne sais plus combien de décennies qu'ils existent, ils ont eu le temps de faire un programme et... Je dirais qu'il y a un souci régional sur le nord de l'Italie. Autant le mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement fait de briques et de brocs, de contestataires, de gens qui ont des tas d'idées. C'est un mouvement qui émane d'une base populaire. Mais ça ne fait pas un programme politique. Alors, il y a un accord, tant mieux. Par certains côtés, d'ailleurs, les deux partis qui ont obtenu la majorité ont montré qu'ils étaient arrivés à conclure un accord, ce qui signifie qu'ils sont parvenus à trouver des orientations politiques communes. À ça, on est déjà, on n'est plus dans le populisme, on sort déjà du populisme.
Commune et apparemment contradictoire.
Et en partie contradictoire. On va voir combien de temps ça peut durer, ce genre de choses.
Alors peut-être pour relancer, moi ce qui m'a frappé évidemment comme beaucoup dans cette élection, c'est les noms d'oiseaux que se sont échangés les uns les autres à la faveur de ces élections. On l'a dit tout à l'heure à propos de l'Iran. Je ne sais pas, vous qui avez peut-être plus de recul que moi et que peut-être qu'un certain nombre d'auditeurs, s'il est familier de s'envoyer de telles invectives. Cette fois, c'est pas au Moyen-Orient, mais c'est en Europe. Cette Paola Savano a dit la chose suivante. Berlin n'a pas changé de point de vue sur son rôle en Europe après la fin du nazisme, tout en ayant abandonné l'idée de l'imposer militairement. Voilà, il faut quand même le dire pour quelqu'un qui allait être nommé
c'est pas faux,
ministre
même,
de l'économie. Bah, je vous laisserai commenter. Et en face, a répondu le commissaire européen au budget, a eu cette phrase malheureuse qu'on lui attribue à une radio allemande. Les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter. C'est violent, Bruno Cyr.
Oui, la première phrase est très violente. La seconde... seconde a un certain bon sens, je trouve, même si les réalités sont parfois abruptes, si vous voulez. C'est pas... mais ce qu'il y a de sûr dans cette histoire, c'est
alors
que...
Il faut quand même que vous expliquiez pourquoi. Parce que pourquoi de dire que les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter, c'est faire preuve de bon sens. On ne peut pas dire que tout le monde ne pense comme ça aujourd'hui. C'est...
Ben, si, parce que... oui, peut-être, mais je pense qu'il y a, y a une méconnaissance des mécanismes des marchés... hein. En France, parce qu'il y a une éducation à l'économie qui est assez défectueuse. Mais en fait, on ne sait pas faire autrement que de l'économie de marché. Donc évidemment qu'il y a un moment où la réalité économique, la réalité des échanges, vient se rappeler à votre bon sens. Et bien vous dire, si vous ne voulez pas rentrer dans le jeu et respecter les règles d'un marché, ben vous allez vous retrouver tout seul. Et si vous vous retrouvez tout seul, ça va être très compliqué
mais
pour vous.
Mais qu'est-ce qu'ils proposent de ne pas respecter? Qu'est-ce qu'il y a en l'occurrence?
Ils veulent sortir du marché unique européen. Donc évidemment
ils voulaient. Ils voulaient.
Bah oui, ils voulaient. Mais enfin, c'est quand même dans le programme, si vous voulez. Il s'est passé en Italie ce qui se passe à peu près partout, mais en Italie avec un aspect un peu peut-être démultiplié. C'est-à-dire qu'on a désigné... le marché européen, l'Europe, qu'on a essayé de construire péniblement depuis 60 ans, comme étant responsable de tous les maux. C'est pas l'Europe qui a poussé les Italiens à faire du déficit budgétaire et à prendre de l'endettement sur leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Donc ça, c'est l'Italie qui l'avait toute seule. Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile de s'exonérer de sa responsabilité en disant tout ça, c'est la faute du méchant marché européen. Et donc, il faut sortir de ça parce qu'il y a un diktat allemand, etc. Bon, je ne dis pas que les Allemands sont complètement innocents dans l'histoire. Ça, on est bien d'accord. Mais comme les autres. Mais enfin, il y a une réalité à un moment donné. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut sortir du marché européen, on le voit bien avec les Anglais, qui veut sortir du marché, il y a un moment où il va falloir qu'il paye l'addition. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un pays comme l'Italie sans l'Europe... eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour le niveau de vie. Bah, baisser, ça va être beaucoup plus compliqué pour un tas de gens. Les gens ne s'en rendent pas compte tout de suite, mais il y a un moment où ça va leur sauter aux yeux.
Alors Bernard Ribal, est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous qui êtes peut-être plus économiste que moi, ce que veut dire, en fait, celle qui a failli être ministre de l'économie quand elle fait cette comparaison et qu'elle dit que le diktat allemand est aussi puissant? Qu'est-ce que ça recoupe, en fait, comme critique quand elle parle de manière plus modérée de cage allemande?
Oui, alors je ne sais pas si c'est une critique populiste, enfin c'est une critique populaire toujours, qui consiste à désigner l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne, comme responsable de tout, parce qu'elle a une balance commerciale nettement excédentaire, et que tous les autres ont une balance commerciale, tous les autres à peu près, ont une balance commerciale déficitaire. Ils y sont un peu pour quelque chose. Bruno Cyr le disait à l'instant, hein, ils ne sont pas blancs, hein, parce qu'ils n'ont pas... vraiment activer le marché intérieur allemand pour laisser toute leur production sur l'exportation. Et ça fait quand même pas mal d'années qu'on leur demande d'augmenter la demande intérieure en Allemagne. Mais enfin, ça, c'est un aspect du problème. Moi, ce que je remarque, c'est que y a deux points forts qui font... un peu peur, quoi. Hein. C'est le point fort sur l'immigration. Et il faut dire que l'Italie était quand même, et toujours d'ailleurs...
500 000 migrants qui devraient être mis dehors, en tout cas,
oui,
c'est ce qu'annonce le gouvernement italien.
Ils en ont reçu 700 000 depuis 2013. Mais alors, justement, ça tombe mal pour eux quand même, parce qu'en ce moment, c'est en très forte diminution. Ils n'en ont eu que 13 000 depuis janvier. Ça tombe mal pour eux qui sont en train de faire campagne.
En tout cas, le sentiment d'abandon des Italiens par une partie de l'Europe est réel.
Là, on peut dire qu'il y a peut-être une faute européenne de solidarité quand même. Hein. On a laissé l'Italie surexposée par rapport à la Libye, qui est en plein chaos. Libye, qui est une ancienne colonie italienne. Libye, qui est aux portes de l'Italie. On a laissé l'Italie toute seule. Et le mieux qu'on ait fait récemment, c'est de laisser l'Italie, la marine de guerre italienne, passer des accords avec les passeurs qui sont des truands pour réguler l'immigration en question avec des ONG qui, dans 90% des cas, font un travail admirable, mais dans 10% des cas, accélèrent par, en surjouant leur militantisme, accélèrent l'immigration. Alors il suffit qu'il y ait deux cas comme ça pour que les partis extrémistes considèrent que tout est de la faute des ONG, bien sûr. Alors que c'est pas le rôle principal, bien au contraire. Donc il y a un problème là qu'il va falloir résoudre, hein, c'est les accords de Dublin. Les accords de Dublin qui gèrent la question, ils gèrent rien du tout d'ailleurs, qui devraient gérer la question de l'immigration en Europe et qui la gèrent mal. Par exemple, presque pour sourire, hein, les accords de Dublin disent 8 ans. Ils peuvent rester 8 ans, les arrivés, les primo-arrivants, les immigrants qui arrivent, peuvent rester et devraient rester 8 ans sur le premier territoire d'accueil. Donc là, c'est l'Italie. Et l'Allemagne dit carrément 10, elle, alors que l'Italie réclame 2 ans. Donc on est loin de...
Emmanuel Perrier, qu'est-ce que vous comprenez dans ce ras-le-bol populaire italien? Et je ne sais pas, est-ce que vous avez un commentaire sur ce qu'on dit les uns les autres?
Oui, j'aimerais prolonger un peu ce que disait M. Cyr. La réaction de ce responsable européen, je ne sais plus, est-ce que c'est un des commissaires, hein?
Oui,
c'est exactement. Un commissaire.
Commissaire européen au budget.
Oui. Lorsque vous êtes drogué à quelque chose, vous êtes dépendant de votre dealer. Lorsque vous êtes drogué à la dette, vous devenez dépendant de vos créanciers. Un pays qui s'enfonce dans la dette pour des tas de raisons est un pays qui passe aux mains de ses créanciers. C'est ce que l'on a vu avec la Grèce, qui se fait dépouiller petit à petit de ses avoirs, de ses actifs. C'est ce que l'Italie va expérimenter. Bien. Il y a deux sources à cette dette. Il y a la première qui a été mentionnée, celle de la surconsommation, c'est-à-dire que nous sommes, et je dirais en France on n'est pas mieux, simplement on a plus on a un coussin plus épais, donc on verra venir le problème plus tard. Mais nous sommes devenus des surconsommateurs qui avons, en l'espace de deux générations, dilapidé le capital des générations d'avant, de notre génération et de la génération d'après. Et cette dépendance à la surconsommation va entraîner ce qui est la conséquence naturelle, c'est-à-dire que progressivement, la paupérisation, ce qu'on voit déjà dans la société française, de manière qui se déploie, on essaye de camoufler.
Je le rappelle souvent, hein, ce chiffre du Secours catholique, plus 1 million de personnes sous le seuil de pauvreté depuis la crise de 2009.
Voilà.
Hein? En France.
Et ça, vous rajoutez le chômage dessus, vous rajoutez les banlieues, on va en parler, enfin, etc. Et donc, premier aspect,
la surconsommation.
Les surconsommateurs,
le deuxième, c'est...
deviennent des esclaves de leurs créanciers et ils vont le payer cher. Hein, ça se paye cher d'être libre, c'est-à-dire que soit, si on veut être libre, il faut être vertueux. Voilà. Moralement, il faut essayer de ne pas tomber aux mains, ou plus exactement, ne pas tomber dans les drogues, dans les dépendances.
Deuxième source.
Tout le monde est drogué, hein, dans cette histoire.
Oui, oui, c'est ça, tout à fait.
Les Allemands ont aussi un énorme déficit budgétaire.
Alors, justement, je viens à ça.
Il n'y a pas que les Italiens et les Français. Hein,
deuxième leçon, me semble-t-il, c'est le déficit politique européen. Ce qui fait une politique, c'est un bien commun. C'est-à-dire qu'on a, le sentiment de former un seul peuple et d'avoir les mêmes objectifs. Ce qui fait que lorsque une partie souffre, on s'en occupe. Ou ce qui fait qu'on va essayer de répartir équitablement les richesses économiques, etc. Bien. Le système actuel a fait que l'Italie, une grande part de la dette italienne, c'est la dette des toutes petites entreprises italiennes. Pourquoi est-ce qu'elles se sont devenues ultra-endettées? Parce que l'industrie, à cause du marché européen, a été monopolisée par l'Allemagne.
En tout cas, ils disent piller en Italie, je ne sais pas comment ça se dit en italien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent.
Je ne sais plus à combien ce monde... Je crois que le montant actuel du solde Target 2, c'est 427 milliards de déficit Italie vers l'Allemagne. Bien. Donc, il y a un manque, c'est pas simplement un manque de solidarité, c'est un manque de souci du commun. Hein. Est-ce que le jour où l'Allemagne acceptera de dire il peut y avoir d'autres industries ailleurs en Europe et que dans ces régions il y a une autonomie, c'est-à-dire que ce ne soit pas nous qui les dirigeons, hein, que aussi pour ce qui est des déséquilibres que nous créons, nous compensons, là, à ce moment-là, on pourra parler d'une politique européenne, d'une vision commune. Mais pour l'instant, on essaye de maintenir ces équilibres uniquement par des règlements qui, en réalité, laissent intact le problème de l'unité entre les peuples européens.
Voilà. Peut-être on peut s'arrêter là pour l'Italie, à moins que vous ayez un dernier commentaire. Je vous propose qu'on passe...
Je crois que l'idée qui a été soulevée par tout le monde, c'est qu'effectivement... il y a un problème économique qui se pose à l'Italie, bien d'autres pays aussi, mais de façon aiguë en Italie, c'est celui de la dette d'une part, et d'autre part de la croissance.
On a l'impression quand même, excusez-moi, à propos de la dette, qu'en fait tout le monde est endetté, donc c'est la prime au plus puissant.
Tout le monde est endetté, puis très endetté d'ailleurs. Et la solution du chef du gouvernement italien, là, on le sait depuis peu, c'est une relance par la demande. C'est-à-dire que la fameuse théorie de il y aura beaucoup d'impôts qui rentreront sans les augmenter. Si la croissance est forte, il y aura des rentrées fiscales.
Donc c'est plus de dette en tout cas, c'est ce que disent leurs détracteurs aussi.
Alors voilà, mais en fait ça marche jamais. En fait ça marche jamais. En Europe, la relance par la demande n'a jamais marché.
Moi je vois en une minute, si vous voulez, je vois un autre problème qui est sous-jacent dont on n'a pas parlé pour expliquer la situation italienne, c'est le problème de la constitution italienne. Cette constitution italienne qui a une chambre qui est élue à la proportionnelle, c'est là le drame.
Un peu de majoritaire dedans.
Oui, mais trop peu.
Ah,
ils sont exactement comme nous sous la 4e République. Ouais. C'est-à-dire que vous avez... Vous avez de la démagogie qui est faite par des minorités qui finissent par emballer un certain nombre de gens qui les suivent parce qu'ils leur promettent tout et le contraire, sans savoir comment ils vont tenir leurs promesses, mais c'est pas grave. Et au fond, quand vous additionnez toutes ces petits partis, ça finit par faire une majorité, c'est exactement ce qui se passe. Heureusement, en France, nous avons une 5e République qui a été bien pensée, bien construite, et qui, en limitant, voire empêchant la proportionnelle, a permis d'avoir une stabilité de nos institutions et une dérive vers, justement, la démagogie populiste. Et il y a un grand danger en France, c'est qu'on soit tenté de faire pareil. Quand j'entends des courants en France qui disent « il faut faire une 6e constitution pour mettre de la proportionnelle », on va revenir à la situation italienne, où la situation, c'est dramatique. Donc là, surtout, que la France ne prenne pas ce modèle de mode d'élection italien qui, pour moi, est à la racine du problème.
Ouais, ils sont sur la 4e République.
On fait une deuxième pause et puis après on va parler banlieue.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat de Vivante Église, c'est donc toujours le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec toujours autour du plateau Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse, Emmanuel Perrier, prêtre dominicain et enseignant en théologie, et Bruno Cyr, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole. On va finir avec les banlieues. Voilà, j'annonce souvent beaucoup de sujets, et puis souvent le dernier passe à la trappe, donc il va falloir qu'on revoie la manière de faire. Pardon pour Parcoursup, mais on en reparlera en d'autres circonstances, c'est promis. J'aimerais qu'on parle des banlieues, puisque donc, pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Louis Borloo, ministre de la ville assez estimé, il faut dire, hein, et assez largement,
ancien ministre,
a remis un rapport le 26 avril dernier, appelé Plan Borloo, à propos des banlieues, suite à des promesses d'Emmanuel Macron de prendre ce sujet à bras le corps, demandant une mobilisation nationale pour les quartiers. D'ailleurs, il avait dit ça en novembre dernier. Voilà, Emmanuel Macron, dans la foulée, le 22 mai, a fait quelques annonces et la déception a été, on va dire, considérable. Alors, je citerai le détail peut-être des mesures après, mais pour donner quelques éléments au débat, je citerai juste le communiqué de presse de l'Association des maires villes et banlieues de France, qui regroupe, je pense, si c'est pas presque tous les maires de banlieue, en tout cas leur immense majorité. L'Association des maires villes et banlieues de France regrette vivement que l'approche globale attendue pour une nouvelle saison de la politique de la ville ait fait long feu, et ça continue derrière. Alors qu'on espérait l'annonce d'un élan sous une formule qui aurait pu être « La République, une assurance pour tous », les propos du chef de l'État ont donné sens au slogan affiché en belles lettres sous lesquels il est exprimé « La France, une chance pour chacun », et ajoutant « Que la bonne fortune sourit aux plus vénards ». Bref, les maires de banlieue sont furieux. Ce plan était annoncé comme assez coûteux, voilà, peut-être critiquable, mais on a l'impression que les banlieues sont passées à la trappe et qu'Emmanuel Macron va faire l'impasse sur le sujet. Et voilà, la colère est grande. Bernard Ribal, qu'est-ce que ça vous inspire avant plus de détails ?
Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est le coup de théâtre du 22 mai, quoi. Le 22 mai, le président de la République à l'Élysée, devant 600 personnes représentant les entreprises, les élus de banlieue, les associations et tout ça, en présence, au premier rang, de Jean-Louis Borloo, est assez agressif, curieusement, quoi. Personne ne lui avait dit quoi que ce soit, ce monsieur Macron. Et voilà qui part en guerre avec des phrases bizarres. D'ailleurs, il y en a une que j'ai toujours pas compris. Il y en a qui m'ont expliqué dans la presse, là. C'est l'histoire des deux mâles blancs qui ne peuvent pas s'occuper des problèmes de banlieue. Il y a plein d'explications à cette phrase bizarre, mais moi, je n'arrive pas bien à suivre les histoires des deux blancs. Hein. Et ça cache la vérité d'une profonde dialectique, d'une profonde opposition par rapport aux banlieues. Il y a la position Borloo, qui m'étonne un peu parce que moi je connais bien Borloo, et il n'est pas du tout comme ça tel que je l'ai connu. Bon, enfin, la position Borloo qui est très structurée, 19 programmes, détaillés,
chiffrés, on a parlé de 35 milliards, je crois.
Quasiment administrés, il va même jusqu'à se proposer pour présider l'un des 19 programmes. Enfin, tout est impeccable, tout est bien fait.
Soutenu par les maires de banlieue, hein, qui
oui, étaient... ça, enfin, pas soutenu, oui.
En tout cas, bon, il y avait des communiqués en ce sens. Peut-être qu'ils espéraient ça plutôt que rien.
Voilà. À l'époque où on n'avait que le rapport Borloo et pas encore la déclaration de Macron, Borloo était assez critiqué quand même. Arrive Macron qui propose une autre politique et qui dit en quelque sorte, il n'y a pas deux France, il n'y en a qu'une, et on ne va pas faire une politique spéciale planifiée banlieue, ça crée une dichotomie, et ça, d'ailleurs, tous les plans depuis 40 ans, il l'a répété, c'est vrai, tous les plans depuis 40 ans ont échoué. Et ils ont peut-être échoué parce que c'était des plans. Quoi.
C'est vrai, c'est ce qu'ils pensent ou c'est ce que vous pensez, mais tout le monde ne dit pas ça.
Borloo est d'accord aussi hein, sur cette idée. Et lui, il va annoncer des mesures ponctuelles. D'abord, la sécurité et la lutte contre le trafic de drogue, jusqu'à informer les maires, ils réclamaient ça, des fichiers S. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais en tout cas, c'était une réclamation des maires de banlieue d'avoir la liste des fichiers S, ils l'auront. Un appel aux grandes entreprises, parce qu'elles ont les moyens d'essayer de faire quelque chose pour créer de l'emploi dans ces zones. Une agence nationale, c'est important ça, de cohésion des territoires. Mais là, il est très fort le Macron, hein, parce que agence nationale de la cohésion des territoires, qui ne s'intéresse pas qu'aux banlieues, qui seront en situation inéquitable, mais aussi au monde rural. Pour essayer de dépasser cette dichotomie là, entre banlieue et le reste. Et puis la rénovation de la copropriété. Et il y a en plus toute la politique générale du gouvernement.
Et hein. La rénovation de la ville, la fameuse ANRU qu'il a annoncé devoir être relancée.
C'est maintenu. L'ANRU, c'est une invention, une création de Jean-Louis Borloo, effectivement.
Donc est-ce que vous avez l'impression qu'on passe à côté d'un vrai plan banlieue, se donner les
oui,
moyens...
Oui, mais la question que je me pose...
D'accompagner ces territoires oubliés de la République,
comme
on dit. Je n'ai
pas assez de documentation pour répondre à la question. Mais je comprends bien la question. Je n'ai pas la réponse, faute de documentation. Mais la question est bien là. Est-ce qu'il fallait un plan? C'est pas sûr qu'il faille un plan. C'est peut-être mieux des mesures ponctuelles rapides.
Alors, pour relancer le débat toujours, Emmanuel Perrier, j'ai lu une interview de Xavier Lemoine. Xavier Lemoine, donc maire de Montfermeil, c'est un des maires de banlieue qui fait souvent parler de lui, qui a été, je crois, autrefois, je pense que c'est plus qu'un président du PCD, puisque c'est Jean-Frédéric Poisson maintenant, ou vice-président. Bref, parti chrétien-démocrate, qui, dans l'incorrect, alors journal pas forcément très politiquement correct, mais il a dit ça ailleurs, sans jeu de mots, dit qu'en fait, pour lui, tous les plans banlieue seraient en partie voués à l'échec, parce que dans les banlieues, la question est d'abord d'ordre culturel. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à dire, mais c'est une question que posent un certain nombre de maires de banlieue. Qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque ?
Moi, je pense que c'est une remarque juste, c'est-à-dire que ça fait 60 ans qu'on traite les banlieues comme des questions purement économiques, matérielles, d'outillage, d'équipement, de présence d'administration, etc. Ce qui fait une vie humaine agréable, acceptable, il y a évidemment la dimension économique, mais il y a aussi savoir à quoi on sert dans la société, quel est l'avenir, qu'est-ce qu'on partage avec le pays dans lequel on vit. Et sur tous ces plans-là, en réalité, surtout ce qui est de la partie spirituelle de l'homme, tout cela a été laissé dans une friche. Au contraire, on a d'autant plus... lâcher de l'argent par hélicoptère au-dessus des banlieues, que on ne voulait pas, faire ce que, il y a encore 50 ans avant, la République avait fait avec ses immigrants.
Alors ce que Xavier Lemoine entend là-dedans, il l'explicite dans d'autres interviews, c'est il pose la question de l'intégration des ressortissants étrangers de confession musulmane ou des Français musulmans et qui résident en banlieue. En tout cas, c'est ce qu'il dit souvent à propos de Montfermeil.
Pour continuer ce qu'on disait sur l'Italie juste avant, j'ai peur que la décision du président Macron ne soit que le reflet du principe de réalité, à savoir que on déverse les milliards, voire peut-être, je crois qu'on en est à plusieurs centaines de milliards, sur les banlieues depuis 20 ans. On a fait un système de clientélisme dans lequel beaucoup de gens mangent dans les fromages et dans lequel, en réalité, l'efficacité de l'argent diminue à force de le répandre. Et on en est à vouloir encore rajouter, puis il y a un moment où il n'y a plus l'argent. Et alors là, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a rendu dépendants des personnes, des mairies, des populations, des associations, etc., à l'argent, et... D'un autre côté, on n'a plus de quoi les financer. Je prends le maire de Montfermeil, sur sa commune, ils avaient lancé un lycée de banlieue, qui fonctionne avec des trombones et des bouts d'élastique. Tout le monde met la main à la pâte. Les parents d'élèves mettent la main à la pâte. Ça tient avec très, très peu. Ça a très peu besoin de... de subventions.
C'est les fameuses écoles Espérance Banlieue.
Exactement. Et ça fonctionne très peu. Et c'est créateur de liens sociaux de manière incroyable. Eh bien, je suis persuadé que l'homme étant d'abord spirituel avant, et l'économique étant une part importante, mais pas la seule, eh bien, on crée des lieux de sociabilité, on crée une entreprise commune, une vie commune, des aspirations communes, eh bien, à ce moment-là, on peut fonctionner avec beaucoup moins d'argent qu'on ne le fait. Et le problème, je crois, aujourd'hui, c'est qu'on est à nouveau face à une dépendance à l'argent qui fait qu'on ne sait plus rien faire d'autre que dire « il faut plus d'argent ».
Bruno Cyr, moi j'ai souvenir juste, je fais une remarque d'une autre émission qu'on avait fait donc sur les banlieues, où on avait interrogé Jean-Marie Petitclair, prêtre très connu en France, polytechnicien, qui disait quand même heureusement qu'il y a eu des plans banlieues tout au long de ces années, sinon peut-être que nos banlieues seraient encore pires et ressembleraient aux banlieues américaines. Mais voilà, il y a des questions culturelles vraies, enfin, que certains posent, et en même temps les maires disent aussi que c'est sûr qu'avec peu de moyens c'est encore plus compliqué.
Bon, évidemment, c'est un sujet difficile. On va pas faire le tour de ce sujet-là. Mais moi, je crois qu'on a oublié les fondamentaux dans cette histoire s'imaginant que par des plans et effectivement déversant, comme ça a été dit, des tombereaux d'argent sur les banlieues, on allait régler le problème. On voit bien que ça ne le fait pas. Le risque du plan Borloo, c'est de mettre encore entre 30 et 40 milliards sur les banlieues avec peut-être un résultat qui sera le même parce que, encore une fois, on oublie les fondamentaux. Et je vais y venir, pour moi, c'est très vite vu, les fondamentaux. Et puis, on a fait en même temps, dans les banlieues, un discours victimaire. Ah, vous n'avez pas de chance, vous êtes dans une banlieue, vous êtes des victimes de la société. Donc on les a ghettoisés en faisant des victimes. Moi, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux.
Alors, les fondamentaux. Eh ben,
les fondamentaux, il y en a deux. Il y en a deux qui construisent la dignité humaine. C'est l'indépendance par le travail. J'ai un travail, je suis autonome, je n'ai pas besoin de tendre la main pour vivre. Ça, c'est la première base. Et la deuxième base, pour moi, de tout individu sur lequel on devrait réfléchir, c'est que j'ai besoin de racines, et ces racines, je les trouve dans le logement. Est-ce que je suis propriétaire de mon logement? Et est-ce que le plan Borloo répond à ça? Malheureusement, non. Et notamment sur la question de la propriété du logement, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter aujourd'hui, quand je vois...
On l'a un peu abordé.
Voilà, mais c'est la base. On ne peut pas avoir de racines quand on n'est pas propriétaire de son logement.
Et quand on n'a pas de culture, diraient certains. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question pour finir?
Non, c'est pas pas de culture. C'est qu'il y a une culture...
Non, mais je vous pose la question, comme d'autres se la posent.
Je ne partage pas tout à fait le point de vue du père. Je pense que l'épanouissement... philosophique des individus, malheureusement, il s'est fait à travers l'islam. Ceux qui ont répondu présents dans les banlieues pour l'épanouissement intellectuel, ce sont les musulmans. Et c'est là où, effectivement, il y a un décalage de culture. Parce que nous sommes dans une culture judéo-chrétienne et il y a un peu un conflit culturel, il faut bien le dire.
Oui, mais espace banlieue dont vous avez
Espérance
parlé,
banlieue.
Marche pourtant pas si mal que ça.
Oui.
Mais ça, alors là, c'est pas musulman, hein. Et c'est même accusé par certains maires de gauche comme étant une droite traditionnaliste catholique qui serait...
Alors que ce n'est pas des établissements confessionnels. Hein.
Non, rien du tout.
Bref, on en reparlera des banlieues, pardon, il faut qu'on rende l'antenne. Merci beaucoup et merci à Bruno Cyr d'être venu ce matin pour cette émission Vivante Église. C'est promis, la prochaine fois, je calculerai mieux le temps pour qu'on ait plus de place pour les sujets français. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry avec l'aide de Maïalène Guillem. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.